la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est Pâques. Pourquoi ne pas parler de Pâques, puisqu'il y a quand même dans le jazz beaucoup d'échos de cette fête-là.
On pourrait dire, notre émission, c'est autour de Pâques.
Autour de Pâques, et pour commencer, Pâques, c'est le fameux passage de la mer Rouge par les Hébreux.
Chez les Noirs américains, cette religion chrétienne qui leur a été imposée par leur maître, on aurait pu dire qu'ils vont en avoir un refus total. Eh bien, pas du tout. Ils se sont sentis complètement, je dirais, en adéquation avec ces peuples opprimés dont on parlait dans la Bible.
Ah, bien sûr, le peuple d'Israël, le peuple qui subit toutes les avanies, le peuple qui marche vers sa liberté, ils s'y sont totalement identifiés. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, leur religion est beaucoup plus Ancien Testament que Nouveau Testament, finalement, dans un certain sens, puisque, comme on va voir, là, pour eux, le Pâques, c'est surtout le passage de la mer Rouge.
C'est pour ça qu'on va vous passer un morceau qui est « Dieu délivrera son peuple ».
Alors, « Dieu délivrera son peuple », c'est un sermon, c'est une congrégation, c'est un pasteur qui s'appelle le révérend Burnett, qui explique ça à ses fidèles, et vous allez voir que les fidèles ont dû répondre.
« Mon texte, this morning, at the 6th chapter of Daniel and 16th verse. The words of the text, God will deliver his people.
Amen.
Daniel was the servant of the Most High God. And Daniel was captured in Jerusalem and brought down to Babylon and placed under the auspices of a king Nebuchadnezzar.
Yeah.
And from Nebuchadnezzar unto Belshazzar. And from Belshazzar unto Doris. And but Doris loved Daniel, because he was a true child of God.
That's right.
And Daniel never did forget his God, but he prayed three times a day.
Mm-hmm.
And opened his window for Jerusalem. And the princes didn't like Daniel, and they tried every way they could to trap Daniel. Mm-hmm. And they went to the king and drawn up a resolution that anybody called on any other God outside of the king and said that they'd be cast into the den of a lion. But Daniel went home and fell down on his knees and began to talk to heaven's God. And my friend and the cat Daniel down to the lion den. And Daniel going down to the lion den, you could hear him calling on his God. Oh, Lord, I am your child. And they carried me down to the lion den.
Amen, brother.
My God spoke to his angel and told him to hurry, go on down to the den of the lion. Angels come on down with the lion, walked up to Daniel and began to say to Daniel in the language,
praise
I'm the king, beast of the forest, and little one significant thing like you, I'll grind your bones up into powder. Daniel said, Lord, come on. And God spoke to the angel, hurry. Angels drop 1 billion miles a second. Come on into the den of the lion. And the lion went off and laid down. Daniel lied down on the lion head all night long. And early in the morning, when the king come riding down, he cried, oh, Daniel. And Daniel asked the king, he said, oh, king, live forever.
Have,
the king said, have thou God delivered you? Daniel said, yes, he delivered me. Said his angel, down and lock the lion jaw, and I'm resting easy, king. I ain't done nobody no harm. The king draw Daniel up out of the lion den. And I want to say, my friend, and cast those men in, and the lion broke the bone. Put your trust in God, he will save you. Amen.
Le pasteur est en train d'évoquer un autre épisode de captivité et de libération qui est la fameuse histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Il y a là une résonance avec le passage de la mer Rouge et le pharaon que Moïse va voir parce que Dieu lui a dit « Je vais sortir mon peuple de là ».
Ça vous a probablement surpris cette façon très scandée, très saccadée. On se dit « Mais au fond, c'est presque du rap. Seulement le rap, de quoi parle-t-il ? Mais en général, c'est « fuck la police
».
Tandis que là, c'est « Vive Dieu », on n'a pas la même vision de la scansion.
C'est juste, enfin, c'est quand même un petit peu « Feu que le roi Nabucodonosor ». D'ailleurs, Verdi en a fait un air d'opéra absolument célèbre, un hymne à la liberté qui a servi à de multiples causes. Et Là, nous allons retourner au fondamental du passage de la mer Rouge, puisqu'il y a un très beau gospel qui a été composé, qui a été inspiré par cette Pâque, que fut le passage de la mer Rouge par les Hébreux.
« Go down Moses ». Moses, c'est Moïse.
Moïse, c'est Moïse.
En gros, c'est « Allez, vas-y Moïse ».
Vas-y Moïse, oui. Prends mon peuple et va-t'en. Et avec ce gospel, Fats Waller a fait, aux grandes orgues, une improvisation absolument magnifique. Et je trouve très inspirée.
C'est vraiment très émouvant. Et ça l'est d'autant plus que il faut pas oublier que Fats Waller est fils de pasteur. Et je pense que quand il a joué ça, il y a tout un tas de souvenirs d'enfance peut-être qui lui sont revenus parce qu'il laisse percevoir toute la grandeur de ce départ de Moïse vers une aventure pas croyable, quoi.
C'est vrai, d'ailleurs, le premier instrument de Fats, c'était l'orgue. Et c'est très étonnant de voir l'autre facette de cet amuseur extraordinaire, toujours prêt à plaisanter,
il faisait le rigolo,
des histoires, etc. Puis soudain, pouf. Et des morceaux comme ça, il en a enregistré une demi-douzaine. Ça s'est passé sur un grand orgue qui se trouvait près de Londres, parce qu'il était allé en Angleterre.
Et puis, il y a une autre manière de le voir un petit peu plus proche aussi des gens parce qu'elle est chantée. Celle-là, c'est avec Louis Armstrong.
La version de Go Down Moses par Louis Armstrong est une version qui a vraiment fait date. Elle est encore rééditée de nos jours, quoi. C'est une chose.
Ah oui, c'est tout à fait vrai que ce disque, ce vinyle du Good Book, a été diffusé à des millions et des millions d'exemplaires.
Oui, c'est absolument énorme.
Le Good Book, ça veut dire la Bible. Hein.
Oui, le bon livre.
C'est le bon livre. Il n'y en a qu'un seul. C'est le bon livre.
Sur la couverture du vinyle, on voit le père Armstrong, son mouchoir à la main gauche, la trompette à la main droite, et en train de chanter. Et devant lui, le bon livre est ouvert sur un lutrin. Hein, c'est tout à fait éloquent. Et là, il y a 12 gospels. Et dedans, il y a Gordon Moses. Et je dois dire que.
Le même que celui qu'on vient d'entendre.
Mais tout à fait différemment abordé. Et après tout ce passage chanté qui est très. Qui raconte vraiment l'histoire, le final à la trompette, c'est à faire tomber les murs de Jéricho. Hein.
On va rappeler très très rapidement l'histoire. L'histoire, c'est Moïse qui va conduire son peuple, les Juifs, qui à ce moment-là sont esclaves, et il va les conduire de l'autre côté de la mer. Ils s'enfuient tous, femmes, enfants, ils ont pris leurs troupeaux, enfin tout le monde est parti, et ils sont poursuivis par les Égyptiens.
Par le pharaon et son armée.
Et ils vont se faire rejoindre. Ils se trouvent devant la mer. Les Égyptiens arrivent. Et là, et ben, ils sont coincés.
Ah, ils sont coincés. Et Moïse ouvre la mer en deux.
C'est-à-dire que là, Moïse prie et la mer s'entr'ouvre. Elle laisse un petit passage. Avec des vagues de part et d'autre immenses qui ne les touchent pas. Les Juifs vont dans ce passage sableux, minuscule, entre deux murs d'eau. Et les Égyptiens rentrent dans ce passage. Et à ce moment-là, naturellement...
Que croyez-vous qu'il arrive?
Ils sont totalement engloutis par les eaux, parce que les Juifs étaient, eux, déjà passés.
Exactement. Il y a un célèbre passage du film Les Dix Commandements de Cécile B. DeMille sur cet épisode mémorable. Alors là, Moïse, en train d'ouvrir le flou avec son bâton, c'est inouï. Inouï. Et pas presque aussi inouï que la trompette de Louis Armstrong dans le morceau qui vient.
Go down, Moses.
Go down, Moses. Way down in Egypt land. Thank you.
évidemment, là, le final de Louis Armstrong, avec tout son peuple derrière lui, on s'y croirait, quoi.
Ah oui, puis avec la trompette qui a ce côté... On a toujours associé la trompette à quelque chose de divin. Les gens disent souvent ça, c'est la guitare, on ne dit pas que c'est divin, mais on dit que la trompette, les trompettes de Jéricho, les trompettes de la renommée, les trompettes, tout ça, c'est quelque chose.
Là, on a l'impression qu'il pourrait ouvrir la mer devant lui en jouant comme ça.
Voilà.
Là, nous étions en pleine Bible, mais il y a aussi la Pâque, la nôtre, celle de l'Évangile, la grande réjouissance de la résurrection. Et naturellement, pour ressusciter, encore faut-il auparavant...
Avoir été mort.
Avoir été mort.
Et bien sûr, il s'agit de la mort du Christ. Hein. Et là, c'est Sister Rosetta Tharpe qui va en parler.
C'est un gospel très, très dramatique, finalement, qui s'appelle « Étiez-vous là quand ils l'ont crucifié ? Étiez-vous seulement là ?»
My Lord,
were you there?
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there?
Oh, sometimes it causes me to tremble. Tremble, yes, tremble. Were you there when they crucified my Lord?
Were you there?
Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there?
Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there?
Oh, sometime it causes me to tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there?
Were you there when he arose up from the grave?
Were you?
C'est très simple et très émouvant.
Ah oui.
Et c'est ce qui peut-être ressemble le plus à ce qu'on peut entendre tout à fait actuellement dans les églises, avec la chanteuse principale, les chœurs derrière.
Oui,
c'est le gospel.
Oui, mais c'est très émouvant, c'est vrai. Alors, 3 jours ont passé, nous sautons nous-mêmes de l'album The Gospel Train à l'album The Gospel Truth.
Bon.
Et de la crucifixion aux joyeuses cloches qu'il faut sonner puisqu'il est ressuscité. Et là, c'est la même Rosetta Tharpe.
There's a land beyond the river that we call
the sweet forever. And we only reach that show by face degree. One by one, we'll gain the portal there to dwell with the immortal. When they ring those golden bells for you and me, don't you hear the bells now ringing? Don't you hear the angel singing? It's the glory, hallelujah, jubilee. In that far of sweet forever, yes, just beyond the shining river. Tomorrow, when our bark shall sail beyond the silver sea, we shall only know the blessing, oh yes we will, of our Father's sweet caressing. When they ring those golden bells for you and me.
Naturellement, c'est un peu insolite ce côté rock guitare électrique, mais Rosetta Tharpe jouait également de la guitare électrique. Là, je veux dire que l'ingénieur du son a un peu charrié avec le son qu'il lui a donné à cette guitare. Elle sonnait plus joliment que ça d'habitude, je trouve.
Oui, oui, ça fait un peu Elvis Presley.
Là. C'était aussi.
Mais c'est pas forcément un défaut, mais c'est surprenant quand même.
C'était aussi l'époque. Et de toute façon. Il faut savoir que le gospel, qui a pas mal évolué dans la manière d'harmoniser les choses, est à l'origine de tout le mouvement Rhythm and Blues, Motown et tout ça. On a tout pêché dans le gospel au départ. Jusqu'à notre cher à Bégouze, à Sylvanès, dont je soupçonne d'avoir été chercher des harmonies dans les gospels des années 70.
Oh.
Si, parfaitement. Bon. Un jour, je en parlerai avec lui.
Nous n'en discuterons pas.
Et nous verrons. Alors, les cloches.
Pourquoi les cloches? Tout à l'heure, c'était les cloches Golden Bells, les cloches d'or. Eh bien, les cloches, c'est parce que pendant toute la durée de la passion du Christ, c'est-à-dire les moments très, très difficiles, qui se terminent par sa mort...
Et qui commence le Jeudi Saint. En fait.
Et qui commence le Jeudi Saint, les cloches, dans toutes les églises d'Europe, de pays chrétiens, devaient se taire. Pourquoi? Parce que les cloches, c'est un symbole de joie. Et c'est pour ça qu'on disait aux petits-enfants, les cloches, elles sont parties pour Rome. Et puis, l'explosion vient, quand le Christ ressuscite, les cloches, elles, alors là, c'est...
Elles se réveillent.
C'est le carillon complet de joie, d'explosion, de carillon.
Elles sont revenues.
Et elles sont revenues, dit-on aux petits-enfants. C'est pour ça qu'on retrouve des cloches en chocolat un petit peu partout.
En américain, sonner les cloches s'appelle « Ring them bells ». Et c'est un morceau très célèbre. Et d'ailleurs, nous allons vous faire un premier cadeau, car aujourd'hui, nous vous en ferons deux. Le premier cadeau, c'est de vous faire entendre enfin une bonne fois l'indicatif de fin de cette émission en entier, tout le morceau.
Vous vous rendez compte de votre chance?
Vous vous rendez compte, car justement, ce morceau s'appelle « Ring them bells ». Il est joué par Lionel Hampton en vibraphone, qui chante également avec son pianiste Jess Stacy, et le fameux solo de trompette qui... termine notre émission chaque mercredi et par Cootie Williams.
Mr. Stacy, ring him bell. Oh boy, the music swell. If you like it, just lift up your head and yell. Oh, Mr., ring him bell. Do 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 do. Today la da 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 da. Thank you.
comme nous sommes en Amérique, naturellement, toutes ces réjouissances ne peuvent se traduire que par une...
Parade. Voilà. Une parade.
Une énorme parade, comme seuls savent faire les Américains avec les papiers qu'on jette par les fenêtres.
Ah oui, oui. Là, ouais. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, mais regardez bien la télé.
Regardez bien la télé, mais enfin dites-vous bien que ce n'est pas tous les jours que Lindbergh traverse l'Atlantique tout de même.
Hein. Absolument.
Cette parade de Pâques s'appelle...
Easter Parade.
Parce que là-bas, Easter veut dire Pâques. Ou plutôt, Pâques se traduit par Easter, ce qui est tout de même d'ailleurs. Et ça vient d'un film, ce morceau, d'un film assez connu, je crois que Fred Astaire devait jouer dedans. J'ai pas vu le film, mais il en est resté un morceau qui a été diversement interprété. Et pour commencer, voici Roy Eldridge à la trompette, dans un rôle presque confidentiel, avec juste un trio, un bon pianiste qui s'appelait Jerry Wiggins. Et il nous distille ce morceau doublement curieux, d'abord à cause de la manière dont Roy Eldridge joue, et ensuite d'aller traduire une parade par une stupide formation.
Oui, parce que d'habitude, il y a quand même au moins une douzaine de musiciens.
Voilà, et sur un ton tellement soft. Quoi qu'il en soit, voici Roy Eldridge dans...
Easter Parade.
Alors maintenant, voici la parade à Big Band, le même morceau.
Ah oui, mais avec du monde.
Avec du monde, du répondant, l'orchestre de Jimmy Lunceford, ce Big Band très célèbre, où Cy Oliver, le grand Cy Oliver, faisait la plupart des arrangements, dont celui-là. Et là, il y a un jeune homme qui s'appelle Tremmy Young, qui joue du trombone et qui chante, et ce sera, plus tard, l'inamovible trombone de Louis Armstrong.
Thank you. with all the frills upon death. You'll be the grandest lady, baby, in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look you over, I'll be the proudest fellow, baby, in the Easter parade. On the Avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us. You'll find that you win the road to grab you. I could write a song then about your Easter bonnet and of the girl I'm taking, baby, to the Easter parade.
On a parlé, bien sûr, des cloches tout à l'heure. Il y a aussi une autre image très, très importante de Pâques. Ben, ce sont les œufs.
Ce sont les œufs, car les œufs sont le symbole du renouveau.
Exactement. Alors ça, c'est très ancien, puisque cette habitude de montrer, donner, échanger des œufs, ça date
Égyptiens.
Des Égyptiens.
Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que les courses aux œufs, l'abondance d'œufs qu'il y a au dimanche de Pâques, à tel point qu'on demande aux enfants de courir après, ça vient d'une vieille histoire. Car à une époque, le carême était tellement
sévère
qu'on n'a même pas le droit de manger des œufs et on gardait les œufs de toute la période du carême pour Pâques. Donc on avait une foison et les gens se faisaient des orgies d'œufs sous toutes leurs formes. Et voilà pourquoi l'œuf est particulièrement
mis à l'honneur à Pâques.
Voilà. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. C'est le fameux problème de la poule et de l'œuf.
Explique-nous.
Eh bien, qui vient en premier ? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf ? Est-ce que c'est la première poule qui a pondu le premier œuf ou le premier œuf qui a donné naissance à la première poule ? On n'a pas fini d'en parler, c'est moi qui vous le dis. Et même Lipspage n'est pas arrivé à résoudre ce problème.
C'est un vrai problème philosophal.
Absolument. Mais Lipspage l'a encore un peu plus compliqué. Car au lieu d'appeler son morceau « La poule et l'œuf », il l'a appelé « La poule ou l'œuf ».
A funny question that comes up now and then. What came first, the egg or the hen? I went into the hen house, and what do you suppose? Not even the rooster knows. The rooster says that gets me, but I'll find out, my friend. What came first, the egg or the hen? He called the hens together outside the barnyard gate and said, hens, let's get this straight. The hens all cried, oh, first came us. And then the rooster, he began to fuss. He grabbed a hen right by her leg and asked her how she got here without an egg. And so it's still a mystery, just like it's always been. What came first, the egg or the hen? But long as there are chickens and eggs to put in cake, what difference does it make? Thank you. all cried. Oh, first came us, and then the rooster, he began to fuss. He grabbed a hen right by her leg and asked her how she got here without an egg.
Ce problème de la poule et de l'œuf est quand même très intéressant. Et justement, il m'a renvoyé à une séance d'enregistrement des Dumoustier Stompers qui s'est terminée d'une manière assez spéciale.
Oui, tout le monde était très très fatigué. Et puis on disait quel morceau on va prendre et tout ça.
Ben surtout qu'il y en avait qui étaient déjà partis parce que ça se passait à Paris. Les avions, les trains, etc. Nous restions cinq.
Et alors finalement, il y a un des musiciens, pour se détendre et détendre les autres, il a commencé à jouer. Sur son banjo, un petit truc. Tous les autres étaient, peu à peu, c'était si drôle.
Là, on était pliés quand même.
Pliés, tout le monde écroulait de rire.
Et puis quand même, c'est une manière de résoudre le problème de la poule et de l'œuf formidable.
Et c'était tellement génial que les cinq qui restaient ont dit « Mais on l'enregistre !» C'était un peu comme une plaisanterie. Et mais
exactement.
C'est génialement fait.
Exactement, on a demandé à notre ingénieur du son de ne pas arrêter la bande. Je me rappelle qu'Alain Marquet a pris sa clarinette basse pendant qu'il y était autant. Et Bruno Bonté, qui là joue du banjo et non pas de la batterie, et qui chante, a finalement très intelligemment résolu le problème de la poule et de l'œuf, puisque dans sa conception des choses, eh bien, il n'y a plus d'œuf, il n'y a plus que des poussins.
Voici ma poule Anatole. Bop, 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 bop
Alors on dira ce qu'on voudra, mais d'après Bruno Bonté, dans cette fameuse affaire de la poule et de l'œuf, eh ben c'est le coq qui a le dernier mot. Ah, quand même.
Oui, messieurs. D'accord.
Et ça nous mène par cette habile transition au morceau suivant, car réfléchissant sur le même sujet, Duke Ellington en a tiré un morceau qui s'appelle...
C'est assez drôle. Ego.
Alors, faut savoir qu'en anglais, œuf se dit egg. E2G, et que son morceau s'appelle E2GO. Donc, c'est l'œuf et c'est moi.
L'œuf, moi-même. Mon ego, c'est mon œuf.
Mon ego, c'est mon œuf. J'ai pondu mon ego tout seul. Voilà.
Alors, dans le cas de Duke, vous voyez, ça n'a rien d'étonnant.
Non, rien d'étonnant. Alors, c'est un morceau assez curieux. C'est une sorte de. C'est un blues, mais c'est un blues un tantinet bizarre. Enfin, écoutez, vous en penserez ce que vous voudrez. En tout cas, voici Ego. Alors, avec ces œufs de Pâques, il y a 10 000 manières de les accommoder, mais quand même une manière anglo-saxonne extrêmement importante.
C'est le petit déjeuner du matin, c'est eggs and bacon, c'est-à-dire le jambon. Et il faut savoir que cette tradition du jambon à Pâques, parce que les gens modestes ne mangeaient pas du jambon tous les jours à l'époque. Et à partir du 15e siècle, on a fêté Pâques en Angleterre par des grosses tranches de jambon.
Et des œufs.
Et des œufs, naturellement.
D'où, naturellement, un air populaire qui s'est appelé ham and eggs, c'est-à-dire du jambon et des œufs.
Et des œufs.
Et naturellement, le jazz n'est pas passé à côté du jambon, des œufs et du morceau.
Du morceau de jambon.
Et là, nous allons remonter très loin dans le temps et nous allons laisser le trompettiste Johnny Dunn, qui avait un orchestre qui ne se mougeait pas du pied, puisque quand même Jelly Roll Morton y tenait le piano, ça n'était pas rien non plus. Et cet orchestre a enregistré un jour de Pâques peut-être, ou un jour de grande disette, ou un jour où ils étaient tellement affamés. Tu sais que j'ai connu un internat où on crevait tellement de faim que nous pensions à nos plats préférés pour tromper la faim quand j'étais gamin. Il y en a qui... Ah, moi, c'est la blanquette. Moi, j'ai une choucroute, etc. Alors, eux, c'était le jambon et les œufs. C'est pas seulement les cloches et l'œuf, c'est aussi le lapin.
Le lapin était un symbole de fertilité.
Bon, entre nous, il n'a pas fallu chercher bien loin pour se souvenir que les lapins étaient plutôt fertiles.
Oui.
Mais ça remonte vieux, ce lapin. Parce que ce lapin, il est déjà dans le monde britannique au Moyen-Âge et également dans le monde germanique où il n'est plus lapin mais lièvre. Parce que là, sans doute, il courait plus vite. Enfin, je ne sais pas très bien. Toujours est-il que le lapin est très présent et que nous avons souhaité terminer cette émission sur Pâques par un hommage au lapin. Et dans le jazz, le lapin, c'est qui ?
C'est Johnny Hodges.
C'est Johnny Hodges.
Parce qu'il avait des grandes dents comme ça, un peu en avant.
Il avait un profil de lapin incroyable.
Une figure de lapin, c'est vrai. On l'a vu nous-mêmes. Et c'était tout à fait exact.
Et tout le monde l'appelait Mr. Rabbit à cause de ça. Et puis, vraiment, il n'en était pas du tout français. Hein. Il savait très bien qu'il avait une tête de lapin. Et comme il savait qu'il était le meilleur, de toute façon...
Oui, et puis dans le jazz, c'était très, très courant. Oui. Tout le monde donnait des surnoms à tout le monde. Oui. Pas forcément vexant, c'était un peu une habitude.
Il y a beaucoup de sobriquets dans le jazz. Et donc, il assumait parfaitement le sien. Et c'est au petit géant du saxophone alto, entouré de tout l'orchestre Ellington, que nous allons laisser donc le soin de conclure cette émission, Pascal. Que dire maintenant, sinon que c'était la planète du jazz.
Et à la planète prochaine.
Thank you.